Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées la plus belle.
À toi de parler.
Vous n'avez pas l'image, mais nous étions en train de nous renvoyer la balle avec Laurent qui est au micro noir dans la cabine technique pour ouvrir ce Canu Info de ce jeudi 16 novembre 2023. Il est 19h02, la plus rebelle des radios. Je regarde toujours Laurent qui est en train de faire autre chose que d'être prêt à parler dans ce micro. Voilà, on va parler plein de choses ce soir. Nous allons parler d'actu avec des titres et des restaurants. Nous parlerons de capitalisme avec McDonald's et nous parlerons de vin. Voilà.
Mais pas du Beaujolais dégueulasse nouveau.
Voilà. Tu sais que les gens ont attaqué. Beaujolais nouveau et dégueulasse dans la même phrase.
Je vais en parler.
Nous allons parler de politique. Nous irons du côté du Royaume-Uni. Nous parlerons en énergie, environnement, tout ça. Voilà. Et donc, en attendant que Laurent ait la joie et la gentillesse de bien vouloir se concentrer, je vais vous parler des titres restaurants. Et j'ai bien dit titres restaurants et non pas tickets restaurants, pour la simple et bonne raison qu'un ticket restaurant, c'est comme carte bleue, c'est une marque. Donc, employons les mots correctement. Alors, vous savez qu'il y a eu plein de... Non, vous savez peut-être pas d'ailleurs. Non. Il y a eu plein de rachats, de fusions, de nouveaux dans ce secteur qui est très florissant. On pourrait dire quelque part sur le dos des salariés et des entreprises malgré tout, puisque vous le savez peut-être, surtout si vous avez des titres restaurants dans la poche, c'est qu'une partie est prise sur votre salaire et l'autre est payée par les entreprises, par vos employeurs. C'est un moyen de vous donner de l'argent à la place d'un panier repas ou de devoir faire une cantine quand vous avez plus de 50 salariés. Je fais vite sur les situations. Sachez que c'est pas obligatoire. Par contre, ce qui est interdit, c'est que vous mangiez sur votre espace de travail. Donc, par exemple, si vous travaillez sur votre bureau avec un ordinateur devant vous, il est interdit de vous faire manger sur cette table devant votre ordinateur, même si vous ne travaillez pas pendant ce temps. Alors, si vous travaillez en plus, en mangeant, alors là, autant vous dire que c'est pas bien, mais on doit vous proposer un espace pour manger. À partir d'un certain nombre de salariés, il faut qu'il y ait des espaces réfrigérés, tout ça. Mais en tout cas, le but de cette pause, c'est aussi de se reposer et de manger. Donc, voilà, juste pour un petit rappel. Alors, on a eu plein d'actualités sur ce titre restaurant. La loi en 2022 avait introduit la possibilité donc d'acheter avec ces titres restaurants autre chose que des produits directement consommables. Donc vous pouviez acheter des produits alimentaires pour pouvoir les cuisiner chez vous, les acheter en supermarché, et c'est une dérogation qui devait donc prendre fin au 31 décembre 2023. Alors, c'est vrai qu'on voit aussi que il y a eu un moment certain nombre d'abus de ces supermarchés où vous aviez une pomme dans votre caddie et vous pouviez passer tout le reste de votre caddie avec un ticket restaurant, par exemple. Il y a eu ce genre de choses qui ont pu être faits à un moment. Et puis, c'est vrai qu'il y avait eu un petit peu un nouveau contrôle. Et donc, c'est pour ça que maintenant, vous aviez une limite du nombre de tickets restaurants que vous pouviez donner par caddie. Mais quand même, il faut bien dire que, bon... on peut un peu quand même jouer. Et puis, il y a quand même aussi ces traiteurs ou ces restaurateurs qui acceptent aujourd'hui plus de titres restaurants que les 25 euros qui sont permis. Vous savez que c'est le montant du cumul pour une normalement, c'est à la journée, mais enfin, on va dire, pour le même achat, ne pouvait pas dépasser 25 euros. Nombreux sont les restaurateurs, restauratrices et les commerçants dans les métiers de bouche à vous permettre de le faire, d'autant plus quand vous avez des titres papier. Parce qu'évidemment, la carte et la numérisation a changé beaucoup de choses dans les fonctionnements. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai vu le cas il n'y a pas très longtemps de quelqu'un qui racontait que, autour de moi, être allé avec sa carte de numérisée, dématérialisée de ses titres restaurants un dimanche au supermarché, bon, c'est pas bien, hein, mais en même temps, est allé à la machine, puisqu'il y a souvent plus de personnel dans les caisses. Et cette personne n'a pas pu passer ses titres, sa carte, parce qu'on lui a dit, bah non, c'est dimanche. Monsieur, madame. Donc c'est marrant parce qu'en fait ça a changé aussi des habitudes et la volonté aujourd'hui des restaurateurs de ne plus vouloir accepter les titres papier. Vous savez, hein, c'est ce qui est prévu aussi avec le gouvernement d'ici 2026. Les restaurateurs et restauratrices aimeraient que ça soit 2025 parce que c'est très lourd à gérer, c'est très compliqué. Il faut être très franc, hein, les commerçants ont beaucoup de mal à vérifier, doivent mettre tout ça dans une enveloppe, attendre les remboursements, il faut checker. Voilà, et bon, en fait. Personne ne le fait, peut-être à part les comptables de l'autre bout du truc. Donc, il y a une volonté de dire, on va prendre la carte. Sauf que la carte, effectivement, elle va limiter la possibilité dans le montant des achats. D'un seul coup, tout va devoir rentrer un peu dans des cadres prévus et légaux. Alors, donc, on a eu un beau retournement quand même, hein. C'est-à-dire qu'on avait donc la fin de tous ces achats alimentaires en supermarché qui devaient donc prendre fin au 31 décembre 2023, comme je vous le disais. Et puis, il y a eu une médiatisation de ce truc qui, normalement, aurait dû passer un peu inaperçu. Mais c'est vrai qu'il y a des journaux et des politiques qui sont tout de suite montés au créneau parce qu'il y a l'inflation et que c'est pas bien de ne pas pouvoir acheter ses pâtes, ses œufs et sa viande directement au supermarché. Ou au magasin qui n'en est pas un. Rappelons que vous n'êtes pas obligé d'aller au supermarché pour acheter votre viande, votre poisson ou vos œufs. Et il y a eu une telle fronde, il y a eu une telle mécontentement et tout de suite une réaction médiatique qu'il y a eu une marche arrière annoncée par la ministre déléguée au commerce, Olivia Grégoire, qui a dit que, oulala, il y aurait prolongation de la dérogation jusqu'en 2024. Du côté de Bruno Le Maire, on a déclaré sur les différentes antennes des médias qu'on allait pouvoir continuer à acheter de la nourriture. Il faut dire qu'il y avait aussi des gens qui disaient, attendez, donc on est obligé d'aller acheter des produits fabriqués alors qu'on peut les faire nous-mêmes, que ça sera peut-être meilleur pour la santé, très certainement d'ailleurs, et puis que dans le cadre de l'inflation, c'est quand même moins cher d'acheter ces produits séparément et frais, pouvoir les cuisiner. Sauf que dans tout ça, il y avait quand même aussi une démarche un peu particulière, c'est aussi de prétendre que on va forcément aller au supermarché pour acheter sa salade industrielle plutôt qu'aller acheter dans un endroit, un traiteur de qualité où on va au restaurant. Et c'est bien ça aujourd'hui qui pose un peu problème à l'UMI. L'UMI, vous savez, c'est le principal syndicat
des patrons
de l'hôtellerie-restauration, exactement.
Parce que eux, ça leur allait pas.
Alors, bah non, mais aujourd'hui, vous savez, c'est un syndicat qui est géré par Thierry Marx, ce qui est plutôt bien parce que c'est un chef étoilé. Enfin, ce qui est plutôt bien. Je vais pas prendre la défense des patrons,
mais c'est pas un industriel.
C'est pas un industriel, et pour le coup, c'est quelqu'un qui est plutôt pour la bonne bouffe, on va dire, ouais. Et pour le préparer. Vous savez qu'en ce moment, en plus, il y a de retour le débat du fait maison où les restaurateurs de qualité aimeraient que ce soit pas eux et elles qui soient toujours obligés de montrer patte blanche, mais que ce soit plutôt le restaurateur ou la restauratrice qui fait que du tout fait, qui soit sanctionné. Finalement, et qui soit pénalisé par une indication pas fait maison, vous voyez. Donc il y a en ce moment aussi un gros mouvement de la part de l'UMI qui donc n'est pas content et qui a communiqué aujourd'hui en disant qu'il y avait un volte-face qui est très mauvais pour les restaurateurs et qui a expliqué dans ce communiqué que c'est un très mauvais signal à la profession donc de la restauration et pour l'UMI et donc par la voix de Thierry Marx, le titre restaurant doit rester une aide au déjeuner des salariés qui ne disposent pas de restaurant d'entreprise, je cite, hein, il ne doit pas devenir un titre caddie. Cette appellation titre caddie, elle va être déroulée depuis plusieurs jours hein, dans la presse. L'UMI a envoyé ses sous-directeurs, directeurs régionaux, tout ça dans la presse un peu de partout. Et cette appellation du titre caddie, elle est revenue assez fréquemment pour dire qu'en fait aujourd'hui, il y a quand même un gros problème. C'est qu'il y a un manque à gagner pour les restaurateurs restaurateurs et les restauratrices qui seraient, d'après lui, de 200 millions d'euros parce que, en fait, cet argent du titre restaurant leur échapperait. Et que c'est la grande distribution qui récupérerait donc ce titre restaurant. Les chiffres sont assez vrais en fait. C'est-à-dire que la grande distribution récupère une grande partie de cette manne financière. Donc en même temps, du côté de l'UMI, on dit bon bah j'entends bien, il y a des problèmes d'inflation, il y a besoin aussi de sous pour les salariés. Alors là, on pourrait quand même aussi reconnaître que ben si on augmente les salaires, on va arrêter de donner des titres restaurant comme un revenu.
Ouais, parce que ouais, c'est un peu ça qui se passe au final.
Bah c'est pas un peu ça, c'est que c'est vrai que c'est un complément parce que on travaille et qu'on a une pause de repas pendant notre travail, que il y a pas de cantine et que donc c'est une participation de l'employeur pour qu'on se restaure. Mais en même temps jouer sur la fibre de les gens qui crèvent la dalle et donc c'est bien de leur permettre de pouvoir continuer à acheter leur alimentation avec les titres restaurants. C'est un peu oublié qu'en fait, c'est aussi parce que les gens, ils ont des salaires assez bas pour une partie de la population. Hein, on a vu que les chiffres de la pauvreté avaient encore augmenté. On a une petite classe moyenne qui ne cesse, elle aussi, d'augmenter. Et effectivement, la part alimentaire est un budget assez important. Donc là, l'UMI, elle essaye en même temps de jouer sur ce côté-là, mais en disant que c'est au gouvernement à concevoir un titre alimentation ou un chèque alimentaire pour lui qui... contre l'inflation et aider les plus défavorisés, je continue à citer. Donc, on a ces contrepoints hein, de bataille entre ceux et celles qui peuvent percevoir cette manne financière et évidemment, du côté de la restauration, on aimerait bien conserver cette possibilité parce que c'est vrai que c'est une vraie manne financière. Alors... Là, les chiffres qui sont donnés hein, aussi, c'est qu'un ticket sur deux est utilisé dans les restaurants. C'est-à-dire qu'un ticket sur deux n'est pas utilisé dans un restaurant. Et donc, ça se bataille. Il faut se souvenir que ça a été créé en 67 en France, que c'est un procédé qui, s'est largement diversifié dans un tas de pays. Y a les TPE, les PME utilisent beaucoup ce titre restaurant. Il faut dire que dans les très grosses boîtes, il peut y avoir des cantines. Donc, de fait, vous n'avez plus votre titre restaurant. Mais on dit que sur 8 entreprises sur 10 qui comptent moins de salariés auraient des titres restaurants et ça concerne à peu près 4 800 000 salariés en France. Donc ça veut dire que quand on nous dit aussi que ça lutte contre l'inflation, il faut se souvenir qu'il y a un tas de salariés qui n'ont pas accès, qui ne bénéficient pas à ces titres restaurants aujourd'hui, donc à cet avantage de revenus qui vient s'ajouter. Je vous rappelle, le ticket restaurant, il est sur votre bulletin de paye. Non, mais je dis ça parce que je sais que certains et certaines d'entre vous ne regardent jamais les bulletins de paye, ce qui est un tort, je vous le rappelle aussi, et que donc ça apparaît là-dessus. C'est comme ça qu'on vous enlève une part de votre salaire, que vous avez la part employeur. Enfin bon, vous verrez, vous avez qu'à regarder un petit peu. Donc, il faut. Voilà, ça aussi, c'est un argument hein, qu'il faut rappeler, c'est qu'une partie des salariés en France ne bénéficient pas de ces titres restaurants. Donc, malgré tout, on voit que c'est quand même un dispositif extrêmement important. On rappelle aussi que ça permet aussi des exonérations fiscales et des sur les cotisations sociales hein, pour les employeurs. Et tout ça, c'est malgré tout très très intéressant. C'est un peu comme les chèques cadeaux. C'est voilà, c'est des petites choses comme ça qui favorisent. La main sur le cœur aussi, les employeurs, à vous donner plus facilement de l'argent. Je vous rappelle que dans d'autres domaines, comme dans les HR par exemple, HR, hein, c'est l'hôtellerie-restauration, et je parle bien de cette convention HR et pas celle de la restauration rapide, qui est juste une horreur, hein, un truc où il n'y a rien dedans. Dans les HR, vous avez le droit à un repas qui est soit servi, soit indemnisé. Si vous ne l'avez pas sur votre fiche de paye, messieurs, mesdames, il faut peut-être aller regarder là aussi, puisque soit on vous nourrit, soit on vous indemnise. Voilà, ça. Donc il faut savoir aussi qu'il y a donc des spécificités liées à certains secteurs d'activité, hein, et comme la restauration et l'hôtellerie par exemple. Là, on a donc ce dispositif qui est évidemment intéressant pour une partie des salariés, d'autant plus que cette remise en question de l'achat au supermarché ou en tout cas du produit frais et brut, il pose problème parce qu'il y a a priori entre 7 et 8 millions de salariés qui font eux-mêmes leur repas. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une perte pour la restauration. Mais tout ça vient aussi du fait qu'il y a On dit aussi plus de télétravail. Il y a aussi du temps partiel. Donc tout ce qui peut faire aussi que bah les gens vont moins manger à l'extérieur. Il y a aussi des pauses qui sont plus courtes. Mais il y a aussi bah les emplois du temps où les gens sont plus isolés dans leurs pauses. Donc quand vous avez des pauses décalées dans une équipe, bah on va moins en resto parce qu'on est plus tout seul, hein, donc c'est quand même moins sympa. Et puis les habitudes alimentaires peuvent changer aussi, dans, en particulier au niveau des services, bien évidemment. Ce qu'on voit aussi, c'est que, et ça c'est très important, et c'est la numérisation qui a accru aussi un phénomène, c'est qu'on le sait pas, hein, mais il y a tout un tas de tickets restaurants qui ne sont pas utilisés chaque année, et ça représente 10% du montant annuel. Donc c'est beaucoup beaucoup d'argent.
Qui reste du coup dans les boîtes qui gèrent ces titres.
Non, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est que jusqu'à présent, il y avait depuis 2014 une obligation de redistribuer à des œuvres sociales des entreprises, par exemple, où il y a des organismes qui dans l'humanitaire qui ou dans le social, hein, qui récupèrent aussi une partie de ces titres restaurants, ce qui peut être jeté et qui permettait de redistribuer. Et puis avec la numérisation est apparu un nouveau phénomène, c'est qu'en fait les émetteurs de ces titres permettent maintenant de cumuler ces sommes, c'est-à-dire à la fin de ta période avant, hein, t'avais un ticket en février 2024 et tu te dis merde, il date de 2023, c'était mort. Alors tu te dis si, après tu peux en faire quelque chose, mais enfin voilà, c'était quand même, la plupart du temps tu dis c'est mort, et qu'est-ce que tu fais? Tu le mets à la poubelle. Bon, c'est comme ça. Là maintenant, avec ta petite carte numérisée, tu peux cumuler ça. Je raconte ça surtout pour ceux et celles qui ne connaissent pas les titres restaurants. Mais c'est bien parce que tout cet argent qui reste inutilisé, ça permet en tout cas, c'est là où je vais te rejoindre, aux sociétés émettrices de pouvoir continuer à faire fructifier cet argent qui n'est pas distribué et qui est toujours là. Hein, vous voyez, ils ont de l'argent dans les caisses. Puisque l'employeur, il achète des titres restaurants, papier ou carte, ça va à la société émettrice qui a de l'argent et qui ensuite, elle doit. Les restaurateurs, les traiteurs, les supermarchés renvoient leurs titres restaurants et là, les sociétés émettrices renvoient l'argent aux bénéficiaires, c'est-à-dire aux restaurateurs et ainsi de suite. Bon, bah, quand il y a un moment, ça va jamais aux restaurateurs, aux supermarchés ou aux traiteurs, et ben, du coup, ça reste dans les sociétés émettrices qui peuvent profiter de cette manne pour faire fructifier. C'est bien pratique. En tout cas, selon les chiffres et les études, il y a 35% des salariés qui ont une carte, hein, une carte numérique, hein, c'est un peu comme une carte bancaire, si vous voulez, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, qui disposeraient d'entre 100 et 300 euros sur la carte, ce qui est quand même une sacrée somme, hein, quand même, et 7% entre 300 et 600 euros. Alors évidemment, c'est beaucoup d'argent qui ne reste nulle part, mais il y a des petits malins qui arrivent sur le marché, parce que le marché, il est quand même très verrouillé, hein, je vous le disais. On connaît bien Sodexo, Indered, Natixis, Hop, Intertitre, par exemple, hein, qui sont très très présents. Je vous le disais, hein, qu'il y a eu des fusions, des rachats, et puis il y a des nouveaux qui arrivent, comme May, par exemple, alors, qui voudraient en fait permettre à toi, salarié, d'avoir une seule tirelire où tu aurais donc tes titres restaurants, tout ce qui concerne les déplacements, la mobilité, les chèques cadeaux, ce qui fait qu'en fait tu saurais toujours tout ce que tu as puisque tu n'aurais qu'un compte. Et puis il y en a d'autres qui proposent, comme OpenEat, de ne débiter les salariés que quand ceux-ci dépensent. Vous voyez, donc il y a des nouveaux systèmes qui essayent de se mettre en place, mais parce que les entreprises cherchent le moyen de rentrer sur le marché, donc elles essayent de se spécificiter avec des petits phénomènes. En tout cas, ce qu'on a aussi appris aujourd'hui, c'est que la Cour d'appel de Paris a confirmé la décision de l'autorité de la concurrence qui sanctionnait les principaux acteurs de ce marché, hein, des titres restaurants en France, c'est-à-dire donc ceux dont je vous ai cité tout à l'heure, Sodexo, Indred, Natixis, Intertitre et Hop. Alors il faut se souvenir que c'est en 2019, je crois que je vous en avais parlé à l'époque, on pourrait retrouver l'émission, c'était en décembre 2019, l'autorité de la concurrence avait condamné ces quatre sociétés à 415 millions d'euros d'amende pour pratiques anticoncurrentielles. Et puis c'est l'organisme commun, la CRT, c'est la centrale de règlement des titres, qui n'existe plus depuis février 2023, qui avait été aussi sanctionné. Donc là, c'est la Cour d'appel qui confirme, hein, cette décision de l'autorité de la concurrence, excusez-moi, avec deux principes. Il y a un premier principe, donc donc de pratique. Là, cette première pratique est, qui consiste à des échanges d'informations commerciales sensibles ayant duré plusieurs années à un rythme rapproché entre les principaux concurrents et en facilité entre l'adoption et la mise en œuvre d'une collusion durable consistant sur un marché en croissance continue à s'assurer la stabilité de la position globale de chacun d'eux. C'est là où donc je reviens à ce que vous avez tout à l'heure, rentrer sur le marché c'est très compliqué puisque les principaux acteurs se sont mis d'accord d'après donc cette cour d'appel qui donne raison à l'autorité de la concurrence. Senderad, hein, qui n'est pas très content, hein, cette entreprise qui a été sanctionnée à hauteur de 157 millions d'euros, a donc décidé maintenant de se pouvoir en cassation. En tout cas, c'est une hypothèse, en réfutant donc ces pratiques, puisque la seconde pratique litigieuse consistait en l'instauration de conditions d'adhésion à la CRT non objectives, discriminatoires et non transparentes, et de mesures destinées à dissuader les émetteurs de se faire concurrence par l'innovation en se lançant individuellement dans l'émission de titres restants dématérialisés. Donc là, on revient encore une fois à ce que je vous ai tout à l'heure sur la difficulté de la concurrence dans le secteur. En tout cas, ça rappelle que c'est un secteur où il y a beaucoup d'argent en jeu et que la réaction de Madame Borne et de Bercy n'est pas là pour rien. C'est que à la fois ça touche les salariés, les entreprises de la restauration, la grande distribution et évidemment ces énormes entreprises qui émettent ces titres restaurants.
Alors on reste dans le capitalisme et dans la bouffe, puisque on va aller du côté de chez Ronald McDonald. On va parler un peu de ce bonheur qu'engendre le capitalisme, notamment quand on est obligé d'aller travailler, ce qui est le cas malheureusement de beaucoup d'entre nous. Alors McDonald a été un peu vilipendé, stigmatisé à juste titre sur la prise de position de certains restaurants sur la guerre israélienne à Gaza. Là on va parler d'autre chose et c'est Alistair Macro, qui est le boss, le directeur, le chef de McDonald's au Royaume-Uni en Irlande, qui a fait des révélations lors de son audit par le Parlement anglais. C'était il y a quelques jours, le 14 novembre dernier, deux jours. Et ça fait suite à une grosse enquête publiée par la BBC qui a fait beaucoup de bruit au Royaume-Uni. Donc, McDonald's se trouve empêtré dans un scandale qui sent pas bon du tout. Alors faut savoir que ça se passe aussi bien en Irlande qu'en Royaume-Uni. McDonald's fait face à de nombreuses accusations de harcèlement sous deux formes, harcèlement sexuel et harcèlement moral. Alors c'est une enquête de la BBC de l'été dernier. Donc là, Alistair Macro est obligé de parler. C'est les parlementaires qui voulaient avoir des infos. Et donc il a expliqué, il a donné un peu plus d'informations, il a dit que ça remontait jusqu'à la direction et qu'il recevait une à deux accusations de harcèlement sexuel par semaine et cinq accusations de harcèlement moral par semaine. Et ça depuis un petit moment, depuis l'été dernier. Donc c'est énorme quand même, c'est pas une fois de temps en temps que ça arrive, c'est un truc ultra régulier et c'est la moyenne, donc ça fait très très peur. Tout le monde, a priori les députés, là, les parlementaires, étaient un peu sur le cul. Donc, il a dit que... Il est allé plus loin, Alistair Macro, il a dit « Mais en fait, les témoignages des employés victimes de harcèlement sont horribles et durs à entendre. » Ce sont ses mots. Alors, selon l'enquête de la BBC de l'été dernier, de nombreux employés mineurs, notamment, avaient dénoncé le harcèlement sexuel et moral dans les McDonald's au Royaume-Uni. C'est un peu particulier de ces chaînes de fast-food. C'est qu'en fait, ils ont un turnover très fort des employés. Ils emploient beaucoup de mineurs, de personnes peu formées au droit du travail et les managers en profitent. C'est de ça dont il est question. Alors il s'est défendu, il a dit que il avait reconnu au moins pour l'instant quelques cas, 157 cas signalés et traités. 18 employés auraient été licenciés, il y aurait eu 50 mesures de sanctions prises. Il leur reste officiellement 249 cas encore à traiter, hein. C'est énorme en fait, hein, de personnes qui se plaignent de harcèlement moral ou sexuel sur les McDo en Angleterre et en Irlande. Donc il a dit qu'il mettait tout en œuvre, voilà, il a fait son mea culpa. Bon, sauf que derrière on a l'affirmation un peu contraire des dirigeants syndicaux qui disent que eux ils sentent pas un changement dans la manière dans la direction, dans le management de chez McDonald's depuis juillet dernier. Donc ils sont un petit peu sceptiques. Et puis les syndicats expliquent aussi que la chaîne de fast-food a l'habitude de sceller, de faire signer des accords à l'amiable avec des clauses de confidentialité pour étouffer les affaires qu'il peut y avoir. Donc ils se disent, on a quand même une confiance toute relative dans les propos du boss de McDonald's, Alistair Macro. Alors, ça fait un gros scandale en Angleterre. On imagine assez facilement que c'est une pratique qui peut être généralisée dans tous les McDonald's du monde, vu qu'ils ont le même fonctionnement avec ces turnover élevés, ces employés très jeunes, voire mineurs, qu'ils utilisent et qu'ils emploient. Alors, c'est juste un exemple de ce qui peut se passer dans le capitalisme, dans ce genre de chaîne de fast-food avec ces turnover, mais c'est quand même pas très rassurant. Alors on reste dans le capitalisme et dans la version nauséabonde du capitalisme. Vous allez me dire, il n'y a pas une version super positive du capitalisme. Non, pas vraiment non plus. Alors, on est en France. En France, il y a un truc qui est intouchable quasiment, c'est l'industrie du vin. Il faut rien en dire, il faut pas dire que le Beaujolais, c'est quand même pas le meilleur vin du monde. Ça, t'as pas le droit. T'es pas sur Radio Canu, mais tu dis ça sur TF1, t'as tout de suite une plainte, etc. Grosso modo, on a l'impression que la démocratie se dissout dans le raisin fermenté. Alors, on l'a vu très récemment, et particulièrement sous les mandats d'Emmanuel Macron, que toutes les campagnes quasiment de santé publique qui avaient été envisagées sur l'alcool et contre l'alcool, elles ont toutes été annulées. Grosso modo, hein, Macron et compagnie, c'est la drogue, c'est mal, tout ça, machin, sauf l'alcool, là, vous pouvez y aller à fond. S'ils ont un comportement antisanitaire et puis surtout super ambigu, voilà, de défense systématique de l'industrie du vin. Mais c'est pas les seuls. Et en plus, parfois, certains ou certaines résistent et ben voilà, ils morflent, ils payent le prix fort. Et on va parler aujourd'hui de Valérie Murat. Elle est militante et porte-parole d'une association qui s'appelle Alerte aux Toxiques. Une association qui s'occupe de la toxicité dans les vins et des problématiques de pollution des vins, en fait. Et là, bon, ils ont eu une bonne nouvelle, ils sont arrivés à récolter 125 000 euros. Alors pourquoi ces 125 000 euros ? Et ben c'est pour pouvoir poursuivre le procès qu'elles ont perdu contre les industriels du vin. Alors, en fait, ça s'est vraiment mal passé et le tribunal à jouer le jeu de l'industrie, de la France, le vin, on n'y touche pas, tout ça. Je rappelle les faits. On est en février 2021, le tribunal judiciaire de Libourne, c'est en Gironde, on parle des vins de Bordeaux, avait condamné donc son association et elle en même temps, à payer donc 125 000 euros pour, je cite, « dénigrement collectif des vins de Bordeaux ». Ils ont dit du mal du vin de Bordeaux. C'est ça. Et donc condamné à 125 000 euros. C'est énorme quand même. Imaginez. Une petite structure associative qui n'a pas de revenus. Hein. Alors c'était des plaintes portées par le Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux. Donc un groupe patronal pour défendre leur truc industriel. Et 25 autres plaignants. Sûrement assez proche de ces milieux-là. Alors qu'est-ce qu'ils veulent faire interdire ? Ils veulent faire interdire un dossier de presse. Ils veulent faire interdire quand même un dossier de presse. Hein. C'est un truc de fou. Et faire fermer la gueule à Valérie Murat et ses amis. Qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier de presse ? En fait, la structure associative a analysé 22 bouteilles de vin de Bordeaux pour chercher des produits toxiques, chimiques, dangereux, cancérigènes, etc. Grosso modo, des résidus de pesticides. Et ils en ont trouvé plein. Et pourtant, ils sont labellisés haute valeur environnementale, un label escroquerie sans lien avec une pratique écologique réelle et efficace, ce qu'ils ont démontré avec leur analyse. Mais en fait, leur dossier de presse, et ce qu'avait dit Valérie Murat, c'est ça, c'est le résultat des analyses. Il y a dans vos vins des produits toxiques, dangereux, cancérigènes, etc. Et donc voilà. Alors, elle a expliqué, et on l'avait vu, c'est en février 2021, la condamnation. En novembre 2021, elle avait donné une grosse interview, elle expliquait qu'en fait, ils ont perdu sur le fond de l'affaire. C'est-à-dire qu'ils ont pas voulu, la justice a pas voulu se poser des questions sur la contamination ou pas des vins. Ils ont juste dit, ben voilà, vous savez, vous attaquez au capitalisme, à l'argent, vous avez pas le droit. parce que vous avez sali l'image des Bordeaux en donnant des contenus volontairement anxiogènes. Des contenus qui sont que des analyses scientifiques. C'est ça qui est intéressant. Donc ils avaient été assortis d'une exécution provisoire, c'est comme ça que ça s'appelle, qui obligeait donc à payer ces 125 000 euros avant de pouvoir aller devant la cour d'appel. Et donc là, ils avaient lancé un crowdfunding et ils sont arrivés au bout, ils sont arrivés à récupérer 125 000 euros, c'est la bonne nouvelle du jour, ils vont pouvoir aller en appel. Alors, il faut savoir que, on va revenir juste 30 secondes là sur le label haute valeur environnementale, ça a été mis en place suite à l'escroquerie qui s'appelait le Grenelle de l'environnement en 2012, et soi-disant ça vise à réduire le recours aux pesticides et engrais qui sont dangereux, etc. En fait, il n'y a aucune contrainte, il n'y a rien, c'est pas un label, c'est un faux label écolo, c'est pas du bio... Donc en fait, les utilisateurs qui ont ce label, ils peuvent balancer des pesticides de synthèse de cancérigènes, tout ça, sans problème. Et donc, quand ils ont fait analyser par un laboratoire sérieux qui s'appelle Dubernay, qui est spécialisé en œnologie, les analyses en 2020, elles avaient vraiment montré qu'il y avait des résidus de pesticides dans les 22 bouteilles testées, dans toutes. Et alors certes, ils avaient dit, on n'est pas en dessous, on n'est pas au-dessus des seuils légaux. Mais donc ils avaient, Valérie Murat et la structure alerte aux toxiques, ils ont dit bah voilà, il y a des produits dangereux, cancérigènes, ça respecte les normes, mais est-ce que voilà, est-ce que c'est une bonne idée de boire ces vins avec ces pesticides de synthèse cancérigènes? Alors faut avoir un petit, faut comprendre pourquoi elle se bat cette dame, parce qu'en fait son père était vigneron, il est mort en 2012 d'un cancer bronchopulmonaire à cause de ces produits-là. Et c'est reconnu officiellement. La Mutuelle Agricole a reconnu comme maladie professionnelle son cancer. Donc officiellement, il a été tué par les pesticides qu'il a utilisés. En se protégeant mal, on imagine. Donc elle se bat contre la présence de ces pesticides qui contaminent à grande échelle, du coup, le vin que les gens peuvent boire. Voilà, elle va en appel et on verra un petit peu ce qui va se passer derrière.
Moi, je te laisse poursuivre, peut-être, sur la police.
Ah. Allez, un petit truc sur la police. Alors, c'est un article qui a été publié dans le média d'investigation Disclose. Je vous laisse aller voir ce qu'il y a sur Disclose. Tous les mois, à peu près, il sort un article, et c'est intéressant, c'est des journalistes qui sont issus d'autres médias, qui bossent sur... qui se mettent ensemble pour traiter un gros sujet. Donc là, le Disclose révèle, en fait, que depuis de nombreuses années, et tout en sachant être dans l'illégalité la plus totale, la police nationale a recouru à un logiciel israélien qui s'appelle Briefcam, qui permet d'automatiser l'analyse des images de vidéosurveillance, ce qu'on appelle la surveillance algorithmique, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui fait de la reconnaissance de visage, de comportement, de plein de choses. De la reconnaissance faciale, comme on dit. Donc ça a été activement utilisé dans la police, ça l'est toujours, depuis plusieurs années. Alors, si on se rappelle l'histoire de l'arrivée de cette vidéosurveillance algorithmique, on en a parlé plusieurs fois ici, puisqu'il y a une campagne qui a à peu près 5 ans, qui a été lancée par plein de gens, notamment la Quadrature du Net, pour dire attention, il y a un vrai danger d'atteinte aux libertés. Jusqu'à maintenant, tout le monde avait de fortes présomptions de l'utilisation de ces technologies interdites par la police nationale. Et maintenant, grâce à Disclose, on a confirmation qu'il y a un déploiement généralisé, puisqu'ils ont retrouvé, ils ont les licences. Alors, ils se démerdent pour les acheter, les licences, en passant par des trucs pas tout à fait légaux, mais pas prévus pour ça, pour pas que ça se voit, en fait. Il faut se rappeler quand même que Gérard Darmanin, l'an dernier, en préparation des débats sur l'article 10 de la loi des Jeux Olympiques, où il était question aussi de ces algorithmes d'intelligence artificielle sur la vidéosurveillance, il avait dit qu'il était totalement contre, qu'il voulait pas qu'il y ait de ce genre de choses. alors que c'était déjà en place et que tout le monde le savait. Donc il est une nouvelle fois pris en flagrant délit de mensonge. Ça n'est pas la première fois, me direz-vous. Voilà. Alors ça, cette intelligence artificielle transforme quand même radicalement la manière de gérer politiquement et techniquement la vidéosurveillance. Ça permet d'avoir un contrôle réel des populations et c'est vraiment très très dangereux sur les libertés publiques. Et c'est quand même choquant que la police triche, qu'il mente, qu'il respecte pas les lois. Normalement, en démocratie, toutes et toutes doivent respecter les lois. Eh ben non, alors on le sait déjà sur les violences policières, mais là, on le sait sur un autre domaine, du coup, la police se permet de pas ne respecter les lois, puisqu'il n'y a aucune loi, aucun texte législatif qui autorise l'autorisation, qui autorise l'utilisation de cette vidéosurveillance algorithmique. D'ailleurs, il y a même une loi qui dit, je vais la citer, c'est l'article 226-18 et 19 du Code pénal, qui dit « Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. » C'est exactement ce que fait la vidéosurveillance algorithmique. Puisqu'elle reconnaît des gens et elle peut extraire le nom des gens et des personnes, etc. Cet article dit aussi que tous les fonctionnaires qui se rendent compte de l'utilisation de cette infraction doivent le signaler. C'est obligatoire aussi, sinon il y a c'est aussi un délit. Voilà. Alors, du coup, Disclose, ils ont récupéré des infos, des échanges de mails. Et à partir de tout ça, ils ont pu en déduire l'utilisation de ce logiciel. En fait, ils s'en sont rendus compte à cause du renouvellement des licences. Donc, ils sont allés, les flics, pour pas que ça se voit, leur tri. Ils sont allés piocher dans un fonds qui s'appelle le fonds concours drogue, puis ils ont piqué de l'argent là-dedans pour acheter les licences de ce logiciel non autorisé. Alors du coup c'est quand même très très grave, ça démontre une fois de plus que la police fait ce qu'elle veut, quand elle n'a pas envie de respecter les lois, elle ne les respecte pas, parce que là on a ça, cette info, donc ça fait plusieurs années que tout le monde est au courant, dans le ministère et dans la police, les gens haut placés qui l'utilisent, personne n'est allé balancer, ce qui n'est pas normal, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, l'article 40 du code de procédure pénale demande à ce que tout fonctionnaire qui voit ce genre d'infraction le signale. Je sais pas ça. Et là, il va se passer quoi? Normalement, il devrait y avoir une poursuite contre tous les fonctionnaires qui ont vu l'utilisation de ce logiciel. Mais la police étant protégée et ne répondant pas aux lois traditionnelles de l'État français, je vous parie tout ce que vous voulez que aucun des fonctionnaires et aucun des flics ayant utilisé le logiciel ne sera poursuivi, bien évidemment, et même pas la hiérarchie et même pas Darmanin qui protège tout ça. Voilà, on en est là aujourd'hui. Et en plus, deuxième constatation, c'est l'impunité policière, on la connaît. Et deuxième chose, on se rend compte que la CNIL, les GPN, tous les trucs qui sont censés contrôler un petit peu les dérives des forces de répression, ben en fait ils servent à rien. Il signale 2-3 trucs, mais ça va pas plus loin que ça. La CNIL, notamment, qui avait signalé déjà des choses, bah en fait, ça sert à rien. Voilà. Donc, c'est une triste nouvelle, quand même, pour la démocratie.
Alors, on va parler d'une autre démocratie. On va partir chez nos voisins, à l'international, pour voir ce qui se passe. Et on va partir du côté du Royaume-Uni, de l'autre côté de la Manche. Et là, il passe un truc assez inattendu. J'avoue que... Voilà, alors on l'avait un peu oublié. C'est le retour du fils de la vengeance, c'est le retour de David Cameron au gouvernement, puisqu'il vient d'être nommé par Monsieur Sunak ministre des Affaires étrangères. Oh, incroyable. Alors Monsieur Sunak vient de limoger sa ministre de l'Intérieur et a fait un petit remaniement ministériel. Et il est allé chercher David Cameron. David Cameron, hein, quand même, on s'en souvient, Premier ministre britannique, qui avait convoqué le référendum sur le Brexit en 2016, qui a foutu le bazar, ouais. Qui a dû démissionner parce qu'il y a eu le Brexit. Et ouais, il s'est pris une claque. Et là, pouf, il disparaît. Parce que bon, il se prend une belle claque hein, quand même, donc il s'en va. Bon, il fait comme un certain nombre de ses politiques, il trouve une reconversion dans une entreprise financière. Ouais, ça se fait bien hein, de ce côté-là. Et a priori, il a été conseiller d'une entreprise financière qui a fait faillite. Non, parce que j'ai redécouvert la vie de M. Cameron, quand même, je dois vous le dire. Il n'est pas vieux, hein, il a 57 ans, si je ne me gourre pas. Donc, il a encore de belles années devant lui. Alors, Le problème, c'est que David Cameron, on va y revenir, mais il c'est un avantage pour M. Sunak. Parce que M. Sunak a trouvé Suella Braverman beaucoup trop à droite. Alors, beaucoup trop à droite. Je vais arrêter de faire des liaisons qui n'existent pas. Donc, pour que M. Sunak trouve quand même sa mise intérieure trop conservatrice, intégriste, c'est que quand même, elle devait être pas mal l'être, hein, quand même. Donc, il est allé chercher M. Cameron, qui est censé être conservateur, mais moins grave. Vous voyez, hein, quand même, c'est plus lisse. Mais bon, en même temps, il y a tâche, là, puisqu'il est quand même accusé d'avoir utilisé un carnet d'adresses auprès de responsables politiques britanniques pour obtenir des prêts lorsque son entreprise a été en difficulté. Donc, il a fait quand même jouer un petit peu ses connaissances et son carnet d'adresses. Donc, et il y a aujourd'hui des parlementaires qui s'interrogent sur les activités qu'a menées donc Monsieur Cameron depuis 2016 et de savoir si ça va pas être finalement un problème pour Monsieur Sunak d'avoir été récupéré Monsieur Cameron. Il aurait été Monsieur Cameron était soutenir le gouvernement chinois qui sur la route de la soie, vous savez, c'est ce grand projet industriel, hein, pour la Chine, extrêmement important, qui ne va pas aussi vite que ne l'aimeraient les autorités chinoises. En tout cas, il serait intervenu auprès pour obtenir peut-être l'ouverture d'un port au Sri Lanka. Enfin, tout ça pourrait peut-être être un problème au bout d'un moment. En tout cas, pour l'instant, il prend donc la tête d'un ministère qui est assez prestigieux, hein, mais de partout, de toute façon. Quand vous avez un ministère des Affaires étrangères, voilà, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, en fait, James Cleverly, qui était là à ce ministère, prend donc la place de Suella Braverman. Donc, hein, hop, on vire les cartes et on y place donc David Cameron. Donc quelque chose d'assez inattendu quand même. Tout le monde semble assez d'accord sur tout ça. Donc Madame Braverman, elle a été donc virée du ministère de l'Intérieur. Pourquoi est-ce qu'elle a tenu des propos sur les manifestations en soutien à Gaza, assez intéressant, ma foi. Elle a expliqué que c'était des marches de la haine, et puis elle s'en est pris à la police, puisque c'est la police qui doit dire si une manifestation a le droit de se faire ou pas. Et ça a l'air d'être quelque chose de beaucoup plus important que chez nous. Hein. Chez nous, vous avez les préfets.
C'est les préfets, ouais, chez nous.
Ouais, mais sauf qu'on se dit toujours que les préfets, c'est l'État. Hein.
C'est ça. Voilà. Bah, c'est ça. Ouais.
Alors les préfets, c'est l'État, bien évidemment, mais on dit que les préfets, ils sont parfois un peu titillés, vous voyez. Hein. Voilà. Et là-bas, c'est quand même beaucoup plus important que ce soit donc cette police. Et donc, elle s'en est pris à la police qui n'a pas plu à la branche conservatrice auquel elle appartient. Comment ça, hein, c'est comme chez nous. Hein. Tu oses t'en prendre à la police, ce n'est pas bien. Ça faisait un moment qu'en fait, elle gênait quand même. Hein. Elle a des propos sur l'immigration qui sont au-delà de ce que M. Sunak, hein. Je vous rappelle que M. Sunak, il veut envoyer tout le monde au Rwanda dans un camp, quoi. Hein, d'ailleurs, il a perdu l'affaire, il ne peut pas pour l'instant renvoyer tout le monde dans un camp, hein, à l'autre côté du monde. Il va devoir gérer son problème chez lui, rendez-vous compte. En tout cas, bon, même pour M. Sunak, elle est trop à droite. Hein. Elle a parlé d'ouragan, d'invasion, que si jamais les gens ils dormaient dans des tentes dans la rue ou même sur le trottoir, c'était un mode de vie. Donc elle en veut, hein, quand même, cette ancienne ministre de l'Intérieur. Maintenant, elle était déjà dans le ministre de l'Intérieur de l'Istrus. Vous savez, l'Istrus qui a tenu moins qu'une salade. Vous vous souvenez peut-être de cette image. Et M. Sunak avait été la chercher à nouveau. On se demande bien ce qu'il y a dans la tête de M. Sunak. Hein, là, quand même, on peut se poser quelques questions. Mais ça n'avait pas duré. En tout cas, c'est une dure de la droite. Et le fait qu'elle ait été virée, ça plaît pas à une partie des amis, hein, de parti de M. Sunak, donc ce Premier ministre, qui se retrouve donc coincé un peu. Et alors on peut se demander pourquoi il va chercher M. Cameron. Parce que, bon, M. Cameron, il a tweeté des trucs, M. Sunak, il est fabuleux, ça va être super bien, et toute la vie, elle est magnifique et tout. Bon, on se dit qu'il lèche un petit peu les bottes, hein, là, quand même. Ou en tout cas, qu'il a retrouvé du travail et que ça lui sauve la mise et qu'il est vachement content. Et qu'en plus, il a un super ministère. Mais la question, c'est pourquoi? Bah, peut-être aussi parce que il y a une position dès maintenant pour les prochaines élections et que ce parti de M. Chunac hein, est depuis un moment maintenant au gouvernement et forte chance quand même qu'il soit viré la prochaine fois. Vous savez, hein, c'est cyclique. On garde des gens, alors plus ou moins longtemps. Là, ça fait quand même un petit moment que ce parti détient le pouvoir. Donc là, ce serait l'idée d'adoucir un petit peu l'image et d'éviter de donner la main aux travaillistes qui ont quand même toutes les chances de pouvoir prendre la suite des conservateurs. Et puis, M. Chunac, lui, c'est un pro-Brexit. Hein. Il est très très content de ce Brexit et qu'en prenant M. Cameron, il peut aussi ben, mettre un peu de l'eau dans son vin. Vous voyez, adoucir un petit peu son image de Brexiteur, libéral aussi. Bon, M. Cameron est un libéral, hein, bien évidemment, mais ça peut peut-être, pense-t-il, a priori, donner une nouvelle image à ce parti conservateur, d'autant plus, comme je vous le disais, M. Cameron est quand même quelqu'un de jeune. Donc, peut-être, c'est pour ça que nous avons le retour inattendu de Monsieur Cameron de l'autre côté de la Manche. Grande question.
On va parler un peu énergie et environnement maintenant. Alors on commence avec ce que j'ai appelé le greenwashing 2.0, une sorte de nouvelle forme de greenwashing qui s'appelle l'écologie positive. En fait, c'est un terme typiquement orwellien, hein, c'est-à-dire c'est de la novlangue inventée par des politiques de droite pour défendre une version de l'écologie qui ne remet rien en cause. Grosso modo, c'est ça. Elle s'oppose, d'après ces politiques réactionnaires qui sont en général plutôt adeptes de la destruction de la planète, à l'écologie dite négative, c'est-à-dire l'écologie traditionnelle, celle qui constate scientifiquement l'impact de nos comportements, et qui cherche après des solutions pour limiter ces impacts. Et l'idée de limiter, de montrer qu'on a des impacts négatifs et de chercher à les limiter, c'est ce qu'ils appellent l'écologie négative. Donc ils cherchent autre chose. Grosso modo, c'est la nouvelle forme de politique de greenwashing. Un petit exemple récemment qui m'a bien fait rire quand je suis tombé dessus tout à l'heure, du coup j'en parle, c'est Caluire et Cuire, donc ville dont Philippe Cochet est le maire, maire de droite. Un opposant farouche à l'écologie depuis des millions d'années. On l'a jamais vu en dehors de sa voiture dans les déplacements. Vous inquiétez pas, hein, vous risquez rien. Hein, il va pas se mettre à courir, il va pas prendre son vélo, sa trottinette. Non, pas du tout. C'est pas le genre. Et en plus, il est ennemi de la justice sociale. Je sais pas si vous aviez fait attention, mais en mars dernier, il était quand même condamné pour discrimination salariale. Grosso modo, il payait sa femme 30% de plus que les autres. Bon, c'était un petit... Ça s'est vu. Hein. Bon, voilà. Alors, il est aussi connu pour s'être opposé à l'autoroute à vélo qui devait passer par la voie verte à Caluire, pas forcément la meilleure proposition, mais la seule dont disposait a priori la métropole. Lui, il s'est opposé, il a manipulé les habitants de Caluire, il leur a fait voter contre et puis du coup ça a été abandonné. Il n'a pas proposé de solution alternative, par exemple d'agrandir la voie verte sur une rue parallèle en faisant des constructions, pas du tout. En fait, il en a rien à foutre de l'autoroute à vélo et des vélos. Donc lui, il met en œuvre à la médiathèque qui s'appelle Bernard Pivot à Caluire, du 18 au 25 novembre, la semaine de l'écologie positive. Donc j'ai essayé de voir ce qu'il y avait dedans pour me dire à quoi ça ressemble vraiment. Alors, il y a des trucs, bon par exemple, alors grosso modo en fait ils vont chercher à faire des trucs inutiles, impact nul, ou alors montrer des trucs sur lesquels personne n'a d'impact. Ou en tout cas pas lui, et ça lui demandera jamais de faire quelque chose politiquement, de faire passer des lois qui vont interdire quelque chose. C'est ça un peu ça le truc. Alors par exemple, le samedi 18, il y a une première partie qui est consacrée à l'impact du numérique sur l'environnement. Ça ne le concerne pas, il n'y a pas de data center dans sa ville, il ne va pas demander aux gens de jeter leur portable, il sait que c'est pas possible. Donc en fait, on fait ça parce que voilà, pas d'impact. Deuxième atelier, apprendre les bases du tricot. Là on se dit, putain, c'est une blague. Voilà, tu vas apprendre les bases du tricot, bon, pour que les gens tricotent leurs vêtements, mais c'est, enfin, voilà, c'est juste ridicule. Le mercredi, il y a une rencontre avec le service nature et résilience de la ville de Caluire, ceux qui s'occupent un peu des espaces verts, des trucs comme ça. Alors, c'est super écolo, tu s'occuper des espaces verts, mais c'est pas eux qui décident d'en mettre de partout, puisqu'ils n'en mettent pas de partout à Caluire. Enfin, c'est que des trucs comme ça. Le vendredi, ils vont observer le ciel et voir les effets de la pollution lumineuse. Là aussi, c'est pareil. Alors, c'est un autre moyen, là, il fait des trucs, il montre des trucs. La pollution lumineuse, c'est une catastrophe pour les insectes, pas que pour observer le ciel. mais qu'à Luire, ils n'ont pas une politique d'éteindre, par exemple, les lampes la nuit, ou de les baisser. Ça a été fait dans la métropole. Il y a eu, tous les maires de droite étaient contre, parce que ça augmente la délinquance. On rappelle que c'est totalement faux, hein, bien évidemment. Il n'y a pas de lien entre délinquance et lumière, en fait, la nuit. Et, mais bon, voilà, il fait ça. Donc, grosso modo, c'est assez ridicule. Et le pire, c'est le samedi, parce qu'il y aura une bulle sonore. Que nous disent les animaux chanteurs? Que nous disent les sons de la nature? En fait, lui, il confond l'écologie, et tous ceux qui font l'écologie verte, ils aiment bien faire ça, c'est montrer la nature, regarder les petits insectes, c'est beau. En fait, ça, c'est pas... l'étude de la nature, regarder la nature, c'est pas de l'écologie, en fait. C'est autre chose. Hein, vous faites un peu d'ethnographie, un peu de... je sais pas quoi, mais pas ça. Donc voilà, c'est assez ridicule, j'ai trouvé ce qu'il organisait, mais c'est... vous l'entendez pas mal, ce terme d'écologie positive, dans tous les anti-écolos, et donc principalement à droite et un petit peu à l'extrême droite. Voilà. Et deuxième info, qui est au départ une info d'écologie pas positive, hein, mais je vais essayer de la tourner autrement, hein, pour faire croire que je suis aussi positif, moi. On a appris qu'il, donc ça faisait longtemps, mais là c'est confirmation avec une grosse méga étude, qu'il y a un lien, comme ils disent, fort, robuste et constant entre l'exposition aux insecticides et une faible concentration en spermatozoïdes dans le sperme. Alors c'est une méga méta-analyse, on appelle ça, qui a été publiée hier. C'est la revue scientifique qui s'appelle Environmental Health Perspective. C'est une équipe de chercheurs et de chercheuses, surtout de chercheuses d'ailleurs, qui a analysé les résultats de 25 études qui existent depuis une cinquantaine d'années, de l'impact des pesticides, enfin là, particulièrement même des insecticides, sur la santé publique et concernant surtout les hommes et l'appareil reproducteur des hommes, c'est-à-dire les spermatozoïdes. Grosso modo, ils sont contaminés avec la nourriture et avec l'eau. Ces hommes, c'est ce qu'a déclaré Lauren Ellis, la doctorante à l'université de Northwestern aux États-Unis, qui est co-autrice de la revue dans laquelle est publiée cette étude. Et grosso modo, ce que dit aussi Melissa Perry, qui est professeure à l'université George Mason et qui est l'autrice principale de cette étude, elle dit bah, les preuves sont disponibles sont telles que nous devons prendre des mesures réglementaires pour réduire l'exposition aux pesticides si on veut qu'il y ait des spermatozoïdes dans le sperme. Alors ça, c'est typique de l'écologie négative, ma petite dame. Il faut pas dire ça comme ça. Si on prend ce que disent les gens de droite comme Monsieur Cochet, il faut dire, oh non, mais c'est bien, vous allez manger des pissenlits, ça vous fera du bien. Voilà, c'est un peu ça. Grosso modo, on peut quand même prendre ça comme une bonne nouvelle. Alors, ils vont pas être d'accord, l'écologie positive, sur cette manière de présenter ça comme une bonne nouvelle. Mais peut-être que comme ça, on se reproduira moins et on aura donc à la fin moins d'impact sur la planète. Hein? Bon, ça, s'il faut jamais le dire, de parler de démographie, c'est un sujet tabou, aussi bien, alors c'est les écologies positives, c'est sûr, et même dans l'autre écologie, c'est un sujet super tabou, mais nous le disons ici, c'est peut-être une bonne nouvelle que le sperme soit moins bon pour la reproduction. J'ai dit ça, j'ai rien dit, c'est à toi.
Alors rapidement, pour vous donner un petit peu des informations sur une lutte qui se passe de l'autre côté de la Manche, ça s'appelle Save Wimbledon Park. Alors il faut savoir que Wimbledon, en général, quand on dit ce mot, on pense tout de suite au tennis. Ben, vous avez raison, parce que c'est de ça dont on va parler. Mais Wimbledon, c'est surtout un lieu où il y a un parc extrêmement important. Ça fait partie de la ceinture verte de Londres. Et puis c'est un endroit où il y a un parc qui est inscrit sur le registre des parcs et jardins d'intérêt historique particulier en Angleterre. Il a été créé par le maître du jardin à l'anglaise et aujourd'hui, même si cet environnement a été beaucoup réduit, mangé par le Londres bâti, on a toujours un terrain de golf, un lac et puis un parc familial. Donc, assez curieusement, les militants, les militantes, les activistes de Save Wimbledon Park, ce sont des habitants hein, qui utilisent donc ce parc, préfèrent garder leur golf plutôt que voir la All England Lawn Tennis and Croquet Club qui organise le tournoi de Wimbledon construire un certain nombre de bâtis. Alors il faut savoir que déjà cette All England Lawn Tennis and Croquet Club a déjà acheté le golf. Eh ben, les habitants préféraient qu'il y ait toujours ce golf. On va dire un golf. Bah ouais, mais le golf, il y a des arbres. Et puis le golf, il est là, il bouge plus, vous voyez. Donc ça, c'est évidemment, on utilise de l'eau, tout ça, tout ça. On n'y plante pas des carottes et des courges dessus. Mais en tout cas, c'est toujours un espace vert pour ces habitants et ces habitantes. Pourquoi ? Parce que donc cette organisation qui organise ce tournoi de Wimbledon veut construire un stade couvert de 8000 places et 38 courts de tennis.
Ah ouais, 38, c'est
ouais.
Beaucoup.
Ah bah ça, c'est pas gros un court de tennis, mais quand même, 38, tu commences à les cumuler. Donc évidemment, pour les habitants, bah non, parce qu'on sait que la création de ce stade couvert et de ces courts de tennis supplémentaires à ceux que possède déjà l'organisateur du tournoi de Wimbledon va amener de la bétonisation, des routes et puis surtout une destruction d'un patrimoine végétal et en particulier d'un certain nombre d'arbres présents sur le site. Donc le collectif se mobilise, a fait des manifestations et malgré tout, pour l'instant, c'est mal barré. Il faut dire qu'il y a un PDG du groupe qui s'appelle Sally Bolton qui estime qu'il faut moderniser Wimbledon qui est un des plus vieux tournois, le plus vieux tournoi. Mais que c'est le plus vieillissant des tournois parce que tu comprends pour les premiers parties du Grand Chelem, il faut pour les phases de qualification comme on dit, il faut se déplacer parce qu'il n'y a pas l'espace dans l'environnement même de Wimbledon, donc c'est pas bien. Et puis il y a des installations vieillissantes et puis des installations d'entraînement qui sont limitées par rapport à d'autres concurrents du Grand Chelem. Donc il faut moderniser tout ça, quitte à abattre tous les arbres qui sont là-bas. C'est pas grave, il faut bétoniser pour moderniser le tennis anglais. Allons-y. Donc pour l'instant, il y a le collectif s'attaque au dépôt du permis de construire. Le collectif estime qu'il va falloir 8 ans de travaux pour tout ça. Donc je vous dis pas comment le lieu là-bas va même être saccagé en termes de vie au quotidien pour les gens qui pratiquent ce parc et aiment s'y promener. Donc il y a pour l'instant 14 000 personnes qui ont signé une pétition, c'est pas mal. Et puis il y a des manifestations, des lettres de protestation, et puis il y a même des députés qui s'opposent à cet agrandissement. Pour le tournoi de Wimbledon pour l'instant ce sont les collectivités qui votent sur place et donc on attend les réactions. Il y a déjà le conseil de l'arrondissement de Merton qui a voté à 6 voix pour contre 4. Merde, ça s'est raté. Reste la participation, donc le prochain vote de l'arrondissement de Wandsworth. Et puis il y a la gestion du Grand Lyon qui devrait peut-être aussi donner son avis et les habitants espèrent que le ministère du Logement pourrait aussi intervenir défavorablement évidemment pour l'agrandissement de cet espace de tennis à Wimbledon. On attend la suite des événements, mais voilà encore une fois des habitants et des habitantes qui luttent pour préserver un petit bout de leur territoire qui quand même leur appartient, parce qu'une fois qu'il y aura les cours, c'est fini.
Pour terminer, une petite micro-info qui est assez intéressante, puisque les juges d'instruction du pôle spécialisé dans la lutte contre les crimes contre l'humanité du tribunal judiciaire de Paris, vous savez, cette justice qu'on appelle extraterritoriale ou universelle, ont émis il y a deux jours des mandats d'arrêt internationaux contre le président dictateur syrien Bachar el-Assad et trois autres personnes, dont son frère Maher. C'est pour les crimes contre l'humanité qu'ils ont commis ces dernières années durant la guerre en Syrie. Alors c'est intéressant, hein, et ça, c'est pas le premier, il y a d'autres procès en cours et d'autres procès qui arrivent. En mai prochain, il y a trois hauts responsables du régime de Bachar el-Assad qui vont être jugés à Paris pour complicité de crimes contre l'humanité. Donc c'est, voilà, et notamment parce que ça a tué deux franco-syriens. Donc voilà, cette justice extraterritoriale commence à fonctionner et c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors du coup, on rêve que la même chose arrive contre tous les dictateurs qui massacrent leur peuple ou les gens qui habitent autour de chez eux. On pense à la guerre à Gaza en ce moment et à Israël, forcément, bien évidemment. Et ça pourrait tomber dedans, mais il faudrait que la France ait du courage, là, parce que là, il faudra vraiment beaucoup de courage. Parce que c'est facile d'attaquer Bachar el-Assad, c'est beaucoup plus difficile d'attaquer Benjamin Netanyahou. Mais il y a eu des bombardements au sud du Liban, aujourd'hui et hier, et il y a au moins trois obus au phosphore qui ont été identifiés. C'est ce qui se dit, c'est ce que disent les témoignages. Des habitants des régions de Alta et de Ouazazazaz, Tanzanie notamment indique avoir vu des munitions au phosphore blanc exploser en l'air. Alors c'est pas la première fois qu'Israël utilise le phosphore blanc. Alors c'était là c'est au Liban, mais il y a eu aussi ça à Gaza. Et ça, c'est plutôt un crime de guerre. C'est l'ONU qui l'a dit. L'utilisation des bombes à phosphore blanc, ça peut constituer un crime de guerre. Donc, on espère que la justice va agir plutôt que de laisser les fous massacrer les gens qui sont autour d'eux et qu'ils aiment pas. Voilà. Petite info avant de se quitter, une manifestation samedi, on sera le 18 novembre à 15h à Bellecour qui s'appelle Gaza cessez le feu, vous avez compris, c'est pour demander un arrêt des hostilités à Gaza. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'actualité, de ce qu'on avait prévu, ou presque, on a peut-être laissé d'autres trucs de côté.
Oui, juste, ça aussi c'est une affaire de vocabulaire, vous savez que j'aime bien le vocabulaire, en tout cas les expressions, et c'est, il y a des pays qui demandent une pause, et d'autres qui demandent un cessez-le-feu, et la pause et le cessez-le-feu, c'est pas pareil, et l'Allemagne demande une pause, par exemple, il y a des endroits où on demande des pauses, appuyons sur pause.
Donc, pendant 2 jours, vous arrêtez de massacrer tout le monde, et dans 2 jours, vous avez le droit de reprendre, en gros c'est ça.
Même déjà le cessez-le-feu, c'est déjà quelque chose qui est pas la même chose que l'arrêt des hostilités,
en fait, le but,
et l'arrêt de la guerre.
Ouais, le cessez-le-feu, c'est demander l'arrêt des hostilités et l'arrêt de la guerre.
Mais c'est quand même quelque chose de particulier, voilà. Et la pause, ça reste une pause. Voilà.
Et ben, il est 19h59, passé de 32 secondes à la pendule rouge et noire de Radio Canu.
On va vous laisser avec l'équipe de La Petite Cuillère qui va pas tarder à arriver. Sinon, le reste du temps, vous pouvez écouter donc les bandes musicales de la plus fameuse et la plus rebelle des radios, Radio Canu. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine.
Bye bye.
Ciao.